Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. La Russie entame aujourd'hui des manœuvres militaires impliquant plus de 120 000 soldats. Ces derniers mois, et notamment l'été qui s'achève, ont été marqués par des essais d'armes et notamment de missiles qui se sont plus ou moins bien terminés. Une explosion qui a fait plusieurs morts dans le Grand Nord russe sur un nouveau type de missile à propulsion nucléaire et l'essai réussi d'un nouveau missile à portée intermédiaire américain. La fin du traité sur les forces nucléaires intermédiaires et les doutes sur le renouvellement de celui sur les armes stratégiques indique clairement que la course aux armements est en train de repartir. Où peut-elle mener? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous ce soir en studio, en notre compagnie, Benjamin Hautecouverture. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et par téléphone, Jean-Marie Collin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert et porte-parole de la branche française de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, ICAN France, et chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. D'abord, nous allons peut-être essayer de nous mettre d'accord sur le constat. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une nouvelle course aux armements, Benjamin Hautecouverture, ou c'est une question de perception ?
Alors écoutez, juste très rapidement avant de répondre à votre question, puisque vous avez mentionné l'exercice militaire qui commence aujourd'hui en Russie et qui va effectivement impliquer quasiment 130 militaires. Un mot là-dessus, juste rapidement. C'est un exercice qui se déroule dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme et dans le cadre de la sécurité de l'Asie centrale. C'est un exercice de reconnaissance, de gestion des troupes et avec une deuxième partie qui sera fondée sur un scénario de conflit direct avec les adversaires. Cet exercice n'est pas particulièrement un exercice stratégique dans le cadre des grands exercices stratégiques annuels de la Russie. Et il s'adosse, comme d'autres exercices, et il y en a vraiment beaucoup chaque année, sur les mesures de réforme et de modernisation militaire qui ont été engagées par la Russie à partir de 2009, après la campagne éclair d'août 2008
en Géorgie.
Contre la Géorgie, qui avait montré énormément d'insuffisance et de carence capacitaire conventionnelle russe. Donc là, on est vraiment dans un exercice un petit peu spécifique.
Ça ajoute quand même un petit peu au
bruit ambiant et un certain nombre de signaux qui nous montrent que décidément les relations stratégiques entre les deux États, que sont les États-Unis et la Russie, ne sont plus au beau fixe et même se fondent sur des perceptions et un dilemme de sécurité entre les deux États et une dynamique d'action-réaction qui font effectivement penser un petit peu à ce qu'on a vu au cours de la guerre froide et dans ce qu'on a appelé vraiment la course aux armements. C'était vrai dans les années 50, puis ça a été vrai dans les années 70 avec la crise des euromissiles et puis la fin de cette crise par le traité FNI. En revanche, moi, je ne parlerai pas de course aux armements stricto sensu parce qu'il n'y a pas de recherche de suprématie aujourd'hui par l'un ou par l'autre, et il y a au contraire une très très grande vigilance des deux États à ne pas se lancer et se relancer dans une course aux armements, et on le voit bien en particulier s'agissant du programme d'armement russe Horizon 2027 qui a été adopté en 2018 et qui est beaucoup plus modeste que le programme d'armement qui avait été adopté entre 2010 et 2018 et qui là mettait à niveau des équipements qui eux étaient obsolètes. Donc, course aux armements, certainement pas. Signaux de dégradation de la relation stratégique à l'évidence.
Jean-Marie Collin, c'est une question de perception. Vous le percevez de la même manière, vous, ou pas, tous ces signaux?
Ah, je pense que c'est une question de mots, principalement. Je pense que l'expression « course aux armements » fait peur et rappelle de mauvais souvenirs, rappelle la guerre froide et donc la peur, le déclenchement d'une guerre nucléaire. Et donc, d'une façon majoritaire, beaucoup de monde n'aime pas utiliser cette expression « course aux armements ». Pourtant, une chose est certaine, et là je reprends les mots de la ministre des Armées qu'elle a énoncé vendredi lors de l'Université de la Défense, elle cite donc les États se lancent, il est peut-être fort de dire que les États se lancent dans une nouvelle course aux armements, mais une chose est certaine, la compétition de la supériorité opérationnelle du futur est lancée. Ce qui veut donc bien dire que s'il y a une compétition, il y a une course. Et s'il y a une course, elle est bien aux armements sur un certain nombre de systèmes d'armes, puisque en même temps on arrive à des périodes entre rupture technologique On peut penser à, aux avancées et aux futures technologies liées à l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, au cyber dans le domaine militaire, au lancement aux États-Unis et en France, en tout cas, d'un commandement de l'espace, en même temps aussi de la modernisation et du renouvellement de l'ensemble des systèmes d'armes nucléaires à travers le monde. Et la France est bien placée pour ça aussi, comme les autres puissances nucléaires. Donc, tout ça fait naître une ambiance et un bruit beaucoup plus qu'un simple bruit de fond. Et on est bien dans cette volonté d'acquérir de nouveaux armements qui peuvent frapper plus vite, plus fort, contraindre un adversaire. La grande question qui se pose, outre la question peut-être de la bonne expression, c'est de savoir pourquoi ces États en fait se lancent dans ces courses à armement et pourquoi finalement aussi ne respectent plus les différents systèmes de contrôle et de traités qui ont été mis en place sur ces 30 dernières années.
Benjamin Haute-Couverture, quelles armes sont développées, nucléaires ou plus conventionnelles, et qu'est-ce qu'elles changent sur le plan des relations entre les blocs, des relations stratégiques?
Alors, très brièvement, c'est difficile de répondre à cette question parce que il y a beaucoup de systèmes qui sont en cours de développement et ça date d'il y a déjà quelques temps.
Et en général, c'est assez secret en plus. Donc...
C'est assez secret, on en sait assez peu. Et pourtant, le président russe en particulier, lors de son fameux discours du 1er mars 2018, avait été assez éloquent s'agissant du développement d'un certain nombre de nouveaux systèmes d'armes, comme par exemple le missile de croisière à propulsion nucléaire Burevestnik ou le Poséidon, ce fameux drone sous-marin développé par la marine russe et doté d'une autonomie illimitée, hein, qui s'inscrit, lui, dans le cadre d'une automatisation des systèmes d'armement, en particulier des systèmes d'armement stratégiques. Vladimir Poutine avait bien pointé du doigt le risque de retard technologique dans ce fameux discours du 1er mars 2018. Il avait dit « le retard technologique, telle est la principale menace, telle est notre ennemi ». Et donc, s'il y a compétition entre les deux États, ou plutôt au moins entre les trois États qui constituent ce triangle, nouveau triangle stratégique entre Chine, États-Unis et Russie, c'est bien une compétition technologique sur des systèmes plus véloces, plus puissants, plus furtifs, plus manœuvrable,
plus autonome aussi.
Plus autonome certainement, et c'est qui ouvre d'ailleurs le débat sur l'implication des nouvelles formes de l'intelligence artificielle sur les systèmes d'armement nucléaire, qui sont des systèmes très orthodoxes, très robustes, et qui ont donné peu de place pour le moment à l'automatisation, mais enfin, ça fait partie des débats et des nouveaux enjeux pour la modernisation des forces et la mise à niveau des forces de tous les États dotés. Et là, pas seulement les États-Unis et la Russie, mais la Chine, mais la France, mais le Royaume-Uni.
Alors, Jean-Marie Collin, je rebondis sur ce que dit Benjamin Haute-Couverture. La différence majeure avec l'époque de la course aux armements et de la guerre froide, qui inquiète un petit peu, comme vous le disiez, c'est qu'il y a des acteurs un peu différents, et notamment la Chine, qui développe son arsenal. Ça change les équilibres.
Alors ça change l'équilibre, oui, pour l'Asie Pacifique. C'est vrai que la Chine, dans les années 70, 90 principalement, orientait sa politique stratégique, sa politique d'armement nucléaire, était basée sur une force continentale. Or aujourd'hui, cette force, donc, qui avait pour but éventuellement de défier une invasion soviétique, aujourd'hui cette force se tourne clairement du côté de l'espace maritime, et donc rentre d'une certaine façon en confrontation aussi avec la force des alliés des États-Unis, donc menace, ou en tout cas fait mine de menacer le Japon, la Corée du Sud. Donc il est évident que on a changé de territoire, on a changé de sphère en passant de l'Europe à la question Indo-Pacifique. Donc c'est vrai que ce nouvel État vient peser beaucoup plus dans l'incertitude qu'il pourrait y avoir face à une montée des tensions. Mais de même aussi l'Inde et le Pakistan qui aussi renforcent leurs arsenaux stratégiques. Donc c'est vrai que ces trois États font une sorte de cristallisation, d'autant plus que l'Inde et le Pakistan sont assez fréquemment en conflit militaire ou en anicroche militaire qui donne des sueurs froides à de nombreux États à travers la planète. Donc il y a toutes ces questions qui viennent de façon beaucoup plus importante. Encore une fois, aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas tellement évolué, même si, en termes de quantité, il y a moins d'armes nucléaires, par exemple, que dans les années 80. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 13 000 armes nucléaires. Dans les années 80, il y avait un peu plus de 70 000 armes nucléaires. mais on n'a pas évolué dans l'idée d'avancer véritablement sur la diminution totale des arsenaux nucléaires, puisque ces États continuent à vouloir les garder.
Alors, Benjamin Haute-Couverture, il s'agit de contrer l'expansionnisme chinois en mer de Chine du Sud, en installant par exemple des missiles intermédiaires comme ceux qui ont été testés par les États-Unis au mois d'août sur l'île de Guam, par exemple, pour dire aux Chinois, bon, on est là.
Bah, le débat sur la fin du traité FNI, là, que vous ouvrez, il est effectivement un débat qui est devenu asiatique. Alors que, lors de la signature de ce traité en 1987, on était vraiment dans une centralité de l'Europe et de la parité stratégique.
Juste que la Chine n'était pas signataire de ce traité.
La Chine n'était pas signataire de ce traité, puisqu'il s'agissait d'un traité bilatéral. Avec la dénonciation de ce traité, c'était au début du mois d'août, et la fin de cet instrument de désarmement qui a été absolument majeur et qui était le symbole de la fin de la guerre froide, on voit les États-Unis, comme la Russie du reste, réagir à une réalité stratégique qui voit la Chine déployer depuis longtemps maintenant plus de 85% de l'ensemble de ces vecteurs dans ces portées du traité FNI, ces vecteurs terre-terre, que sont les portées 500 à 5500 km. Et donc, pour les Russes comme pour les États-Unis, ils se voyaient les points liés par un traité qui n'engageait pas la troisième force qui, elle, développait ces vecteurs à double capacité dans ces portées. En revanche, cela ne veut pas dire du tout qu'il y aura ipso facto un développement de ces systèmes sols, à partir du sol, américains, notamment au départ de l'Australie ou du Japon ou de la Corée du Sud, parce que pour le moment, ces États n'en veulent pas et ils n'en voudront pas du tout, de la même manière qu'on ne voit pas du tout ce genre de missiles à double capacité se redéployer en France, où les gouvernements et les États n'en veulent pas non plus. Donc là, pour le moment, les États-Unis se donnent la possibilité de développer des missiles qui seront surtout conventionnels sur ces portées-là, qui seront certainement conventionnels, mais qui ne seront probablement pas nucléaires.
Jean-Marie Collin, cette course aux armements, et ce que je vais dire est un petit peu contre-intuitif, paradoxal, est-ce que ça peut amener un nouvel équilibre de la terreur et donc paradoxalement garantir la paix ?
Écoutez, l'équilibre de la terreur, le grand danger, c'est qu'on est en équilibre et qu'à tout moment on peut tomber. Et si l'on tombe, ça risquera de faire extrêmement mal. C'est une des grandes questions entre les pro-désarmement et les anti-désarmement, c'est de dire finalement, grâce à l'arme nucléaire ou grâce à ces courses armements, depuis 1945, il n'y a pas eu de grande guerre majeure et donc on a été en paix. Sauf qu'on ne peut pas prouver cette hypothèse puisqu'on ne peut pas refaire l'histoire depuis 1945. Ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que plus les États, et d'ailleurs la preuve de cette émission ce soir, finalement, si la Russie fait cet exercice, ça inquiète, ou en tout cas ça fait parler la presse parce qu'il y a des interrogations, ça veut bien dire que cela crée une certaine peur. Et la question, c'est pendant combien de temps on reste uniquement avec cette peur et pendant combien de temps, en fait, on échappe potentiellement à un conflit. Donc je ne pense pas que la course aux armements et donc cet équilibre de la terreur puisse donner une paix stable et durable et équilibrée pour tout le monde. Bien au contraire, elle crée un régime de terreur et elle crée justement une volonté toujours d'acquérir de nouveaux systèmes d'armes et de poursuivre cette course aux armements. Je rajouterais simplement quand même que cette course aux armements est aussi très bénéfique pour l'industrie d'armement qui pousse aussi à essayer de vendre ou à indiquer la nécessité de produire de nouveaux systèmes d'armes.
Benjamin Haute-Couverture, l'équilibre de la terreur ou pas dont on parle, hein, il est plus difficile à trouver dans un monde qui est davantage multipolaire que dans les années 70-80 ?
Oui, bien entendu, la structuration bipolaire du monde est vraiment terminée avec la fin de la guerre froide. Et aujourd'hui, la lecture d'un monde qui soit se multipolarise, soit s'apolarise, est difficile parce qu'on ne voit pas comment est-ce qu'on peut trouver des véritables ferments d'équilibre stratégique. Il y a des équilibres bilatéraux, ça peut être fonctionnel dans une région donnée, type le sous-continent indien ou type la relation bilatérale stratégique américano-russe, où les Russes et les Américains sont encore soucieux tout de même de parité stratégique, même si on s'entend différemment sur ces mots. Mais sur le plan mondial, effectivement, il n'y a plus véritablement d'ordre nucléaire. Au sens juridique, il est toujours fondé sur le traité sur la non-prolifération de l'arme nucléaire, sur les garanties de sécurité otaniennes et de dissuasion énergie américaine dans le nord-est asiatique, mais cet ordre se fissure, cet ordre est remis en cause, cet ordre a essayé de figer une histoire nucléaire qui est celle de la guerre froide, et la guerre froide est terminée maintenant depuis bientôt 30 ans. Et la réinvention d'un nouvel ordre nucléaire qui soit à la fois stable et non pas fondé sur un ordre bilatéral qui n'existe plus, là, n'a pas lieu, si vous voulez. Et c'est ça qui est en cours de gestation, et cette gestation est chrysogène, cette gestation est difficile, et donc instable, et donc facteur effectivement de crise.
Jean-Marie Collin, la Chine, donc on le disait, n'était pas signataire du traité FNI, elle n'est pas signataire du traité START, et n'a pas du tout l'intention de rentrer dans des négociations tripartites pour gérer cet équilibre nucléaire.
Tout à fait, elle n'a pas du tout l'intention d'entrer dans ces négociations, tout simplement parce qu'elle dit que son niveau de son arsenal nucléaire, même s'il faut quand même bien mentionner que c'est la seule puissance reconnue par le traité de non-prolifération nucléaire qui a un arsenal qui est en expansion en termes de quantité, son arsenal devrait arriver ou devrait dépasser celui de la France, selon les experts, différents types d'expertise, cette année ou l'année prochaine, et donc dit que tant que en fait les États-Unis et la Russie ne seront pas à son niveau ou n'auront pas grandement diminué leurs arsenaux nucléaires, celle-ci ne s'engagera pas dans une politique de désarmement trilatéral. Mais c'est exactement la même pensée du côté français aussi, il faut aussi le souligner. Pour l'instant, la France refuse tout engagement d'un processus trilatéral au niveau du désarmement nucléaire ou multilatéral en tant que tel.
J'allais vous poser la question, Benjamin Hautecouverture, qui peut participer, qui peut suivre à cette course? Est-ce que l'Europe est invitée?
Non, l'Europe n'est pas invitée. L'Europe est observatrice, l'Europe regarde ce qui se passe au-dessus de sa tête comme d'habitude. La question d'une dissuasion européenne, d'une dissuasion partagée ou d'une dissuasion concertée s'est reposée chez nos amis allemands cette année et l'année précédente, parce qu'on commence à avoir de plus en plus outre-Rhin des doutes s'agissant des garanties de sécurité fournies par l'allié américain dans le cadre de l'OTAN. C'est un vieux débat très évolutif mais très lent, et pour le moment l'Europe n'est pas impliquée du tout dans cette affaire en tant qu'entité géopolitique ou entité politique distincte. Naturellement, l'Union européenne n'en est pas du tout partie de cette histoire. Donc non, l'Europe, de ce point de vue-là, se cherche à la fois sur le plan de l'armement conventionnel, d'un point de vue intégré et du point de vue d'une politique commune, et sur le plan nucléaire, à l'évidence, il n'y a pas du tout de dissuasion nucléaire européenne autonome, même s'il y a un sens, si vous voulez, des intérêts communs, un sens des intérêts vitaux, un sens des intérêts historiques qui fait que naturellement l'arsenal britannique, l'arsenal français pourrait servir à couvrir des menaces et des risques qui pèsent sur les 27 États membres, bien entendu, mais ça reste assez théorique.
Jean-Marie Collin, un mot sur cet aspect Europe spectatrice de tout ça?
Alors oui, je partage...
En quelques secondes, il nous reste peu de temps, allez-y.
Je partage cette idée-là, sauf que la France, qui vient de lancer depuis 2 ans une initiative européenne d'intervention, derrière cette initiative, il y a bien l'idée de faire partager une culture stratégique et de faire adhérer les Européens à l'idée d'une dissuasion nucléaire. Ça ne veut pas dire que la France partagera cette dissuasion nucléaire, mais ça veut dire que éventuellement ces Européens pourraient payer une partie de cette dissuasion pour assurer aussi leur défense.
Et quand on voit les difficultés de l'Europe de l'armement, qui se fait la négociation entre la France et l'Allemagne sur les chars et sur les avions, les systèmes d'armes aériens, c'est peut-être un petit peu inquiétant pour l'avenir. On en reparlera peut-être lors d'un autre débat. Merci Jean-Marie Collin, merci Benjamin Hautecouverture d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous écouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.